c'est moi qui vous remercie, qui remercie les organisateurs. Je suis très heureuse de partager avec vous ces quelques moments autour de la révolution russe, des révolutions russes. Un siècle après, le cycle du centenaire est presque terminé, hein, puisque c'est vrai qu'on arrive finalement au bout du cycle du centenaire de cette année révolutionnaire. Si on se place il y a un siècle, le 14 mars 1918, c'est vrai que le cycle vraiment s'achève. C'est-à-dire que la révolution d'octobre, donc de novembre pour nous avec le calendrier grégorien, a eu lieu. Le régime des soviets est en place avec la dissolution de l'Assemblée constituante, sur laquelle je reviendrai pour terminer. Et puis, ce jeune régime soviétique a signé une paix séparée, puisque l'Europe est encore en guerre mondiale, hein, comme vous le savez, et la France notamment, qui ne sera terminée que le 11 novembre. Une paix séparée avec ce qu'on appelle les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, l'Empire ottoman, et donc en quelque sorte a sécurisé son régime et peut se donc lancer dans la construction d'une nouvelle société. Donc cette révolution d'octobre, ce sont les 10 jours qui ébranlèrent le monde, hein, selon le titre du fameux souvenir du journaliste américain John Reed. John Reed, dont justement le livre a été réédité dans plusieurs éditions de poche récemment, et qui vraiment est à lire, hein, parce que ça, c'est vraiment une plongée justement dans cette ébullition de l'événement sur laquelle je voudrais revenir aujourd'hui, puisqu'il en a été le témoin à partir donc du printemps et surtout de l'automne 1917. Et le témoin jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort justement en militant pour la révolution bolchevique, ayant donc contracté le choléra à Bakou, où il avait été donc prôné la révolution à ce qu'on appelait à l'époque les peuples d'Orient. Donc John Reed est mort en 1920, et du coup il n'a pas pu voir effectivement le prolongement que nous connaissons venant de 2018 de cette révolution, de ces révolutions russes, puisque 1917, comme le disait Jean-Numa Ducange, c'est vrai que de facto ça a en tout cas en partie ébranlé le monde, c'est-à-dire que c'est bien un siècle qui est né là, ce qu'on appelle souvent le court XXe siècle, en reprenant le titre de l'ouvrage de l'historien britannique Eric Hobsbawm, donc qui commence en 1917 et qui s'achève avec l'effondrement des régimes communistes en Europe en 1989-1991. Et la disparition donc de l'URSS, née en 1922 de la révolution bolchevique. Et donc ce siècle soviétique, c'est bien à la fois l'incarnation, mais aussi on peut dire l'accaparement finalement, hein, par Moscou, des espoirs de révolution politique, économique, sociale, internationaliste, qui sont nés avec le socialisme européen, qui se sont développés avec Marx, précisés avec Lénine, c'est leur prolongation par ces partis communistes, hein, qui se sont développés en Europe et puis ensuite dans le monde entier, qui se sont appropriés, qui ont adapté le projet soviétique à leur société, et puis qui ont décliné, comme on sait, en lien aussi avec les immenses déceptions liées à l'évolution du régime soviétique et notamment au stalinisme. Donc c'est une coïncidence des dates qui est intéressante pour nous. Alors je voudrais aussi évoquer, avant d'entrer dans le vif du sujet, une autre coïncidence de date, hein, puisque dimanche prochain, cette fois, donc le 18 mars 2018, il y a des élections en Russie, et donc Vladimir Poutine, sauf énorme surprise, va être réélu président de la Fédération de Russie, et je voudrais citer un discours qu'il a fait le 18 mars toujours, mais 2014, le jour de l'annexion de la Crimée par la Russie. S'adressant donc aux députés de son Parlement, de sa Douma, il faisait l'éloge, je cite Vladimir Poutine, de la culture, de la civilisation et des valeurs humaines qui unissent les peuples de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et s'il faisait cet éloge, c'était pour mieux dénoncer l'Europe, dénoncer les États-Unis, et je cite encore leur infâme politique, alors le mot russe dit endiguement ou refoulement, conduite au XVIIIe, XIXe et XXe siècle et qui se poursuit aujourd'hui. On la voit bien. Je voulais du coup remettre en perspective un petit peu dans la longue durée. Hein, c'est ce jeu croisé des stéréotypes, l'isolement de la Russie, l'hostilité Europe-Russie, qui ne date pas évidemment d'aujourd'hui, hein, et on vous montrer cette belle carte humoristique dressée par le caricaturiste français, Adol, qui montrait donc la carte de l'Europe et la Russie comme, je cite la légende, hein, un croque-mitaine qui voudrait remplir sa hotte. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit la Crimée tout à fait en bas, sous forme de la poche du croque-mitaine. Donc c'est le jeu des stéréotypes croisés, des stéréotypes à la fois d'amour et d'hostilité entre la Russie et notamment la France, qui ne datent pas d'aujourd'hui et auxquels donc, j'ai consacré un certain nombre effectivement de travaux et qui se croisent avec la mythologie soviétique proprement dite, c'est-à-dire communiste, notamment à travers les voyages en URSS. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Puisque ce que j'ai proposé de traiter ce soir, c'est vraiment l'idée de revenir justement, pour nous, au terme de cette année 2017-18, de revenir sur l'événement, la dynamique de l'événement, un événement donc qui a été rapide, qui a été radical, qui a été surprenant pour les contemporains. Alors pourquoi revenir sur cet événement? Parce que d'une part, il y a eu beaucoup de nouvelles recherches menées par des historiens de toute nationalité. Alors, nouvelles en France, pas si nouvelles, hein, puisqu'il y a toute la dynamique des travaux de Marc Ferraud, que vous connaissez sans doute, mais aussi qui ont été donc en quelque sorte relayés, développés dans des directions différentes, notamment par Nicolas Vert et puis plus récemment par notre collègue Alexandre Soumpf. Mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup de travaux russes, de travaux américains notamment. Et comme le disait Jean-Numad Kange à l'instant, ces travaux ont permis notamment de revenir sur l'importance de la révolution de février, dont la mémoire avait été en quelque sorte écrasée hein, par le bolchevisme, par le communisme, de revenir sur l'importance du contexte de guerre pour les révolutions elles-mêmes et pour leur réception en Occident. Et puis aussi, mais là j'aurai pas le temps de développer, mais on pourra en discuter un peu si vous voulez, aussi beaucoup sur la manière dont la révolution, ou les révolutions, donc cette année révolutionnaire a été vécue à l'échelle locale, en utilisant beaucoup à la fois les archives locales et puis tout ce qu'on appelle les égaux documents ou les archives de soi, c'est-à-dire les correspondances, les journaux intimes, tout ce qui était souvent enfoui dans les familles russes et qui est ressorti, en fait, d'ailleurs aussi dans l'émigration, à l'occasion donc de la fin du régime soviétique. Et puis, aussi parce que j'ai eu la chance donc de plonger dans l'événement en étant avec d'autres collègues commissaires de cette exposition qui du coup vient de s'achever, donc je ne peux pas vous y envoyer, mais je peux vous renvoyer en revanche au catalogue qui a été publié aux éditions du Seuil et qu'on va trouver dans toutes les bonnes librairies nous a permis donc vraiment de plonger dans cette richesse documentaire qui se trouve donc à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine à Nanterre, qui vient d'ailleurs de changer de nom, qui s'appelle maintenant La Contemporaine, et qui a une très très belle collection commencée, initiée dès 1917 par des correspondants qui lui envoyaient depuis la Russie, par des moyens parfois acrobatiques, tout ce qu'ils pouvaient recueillir, donc en étant tout à fait eux-mêmes conscients de l'importance de l'événement pour justement l'histoire mondiale, en tout cas européenne, en train de se faire. Alors, j'ai choisi deux moments tout à fait classiques hein, pour cette présentation. D'abord, la révolution qui naît de la guerre, et puis ensuite, revenir justement sur le moment démocratique et puis sur le triomphe des bolcheviks à partir donc d'octobre 1917. Donc la question évidemment que se sont posés les contemporains et que se posent souvent encore toujours les historiens, c'est pourquoi finalement éclate une révolution. Voilà, vaste question. Et en l'occurrence donc, comment expliquer qu'en moins de 8 mois finalement, la Russie donc change de régime, c'est-à-dire passe de la monarchie au communisme bolchevique, donc un changement vraiment tout à fait radical, d'une monarchie à une république, d'un régime complètement lié à l'église orthodoxe, à un régime athée, et avec des conséquences géopolitiques majeures, qui justement sont une blessure dans cette culture de pouvoir des dirigeants russes, et notamment de Vladimir Poutine, hein. Une conséquence géopolitique majeure, puisque c'est un empire donc de 170 millions d'habitants à l'époque, qui s'étend donc de la Sibérie à la Baltique, à la mer Noire, qui disparaît en quelques mois de la carte des puissances, tout simplement, pour revenir à partir de Brest-Litovsk, mais amputé d'un tiers de son territoire, et qui va, en quelque sorte, ressurgir sous forme de l'Union soviétique dans toute l'histoire que l'on connaît. Alors, cette révolution, elle a surpris les contemporains, et pourtant, en fait, la question de la révolution en Russie avait été déjà posée et débattue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire russe. Elle inquiétait les puissances européennes et elle donnait espoir aux militants socialistes ou anarchistes. Je vous ai mis deux citations que j'aime bien. La première est d'Anatole Leroy-Beaulieu, qui est donc un observateur des questions russes, un libéral, hein, qui est professeur à l'École libre des sciences politiques, qui écrit pour la Revue des Deux Mondes, qui publie donc cet ouvrage de référence qui est l'Empire des Tsars et les Russes, et donc qui écrit hein, « Une révolution chez le peuple de l'Europe le plus ignorant et le plus crédule, hein, sous l'inspiration des doctrines les plus anarchiques, dépasserait probablement en barbarie toutes nos terreurs et nos communes. » Donc on voit bien à la fois cette peur de la révolution et à la fois, ce qui va aussi être un fil rouge des interprétations, le fait que, bien sûr, ce Français va lire la révolution russe, cette possibilité de révolution russe, à l'aune de sa propre histoire et de l'histoire de la Révolution française et de la Commune. Vous voyez qu'il écrit en 1880, donc c'est un traumatisme tout récent pour lui. Alors, dans un autre registre, hein, Marx et Engels, dans la préface à l'édition russe du manifeste du Parti communiste, quant à eux, se penchent évidemment avec espoir sur l'éventualité je cite, donc, cette révolution russe donne le signal d'une révolution prolétarienne en Occident. Donc, ils observent cet empire autoritaire, qu'ils voient comme un empire évidemment rural, comme un empire archaïque, mais ils observent aussi le développement du capitalisme industriel et financier, et ils pensent qu'il est possible donc que le mûrissement d'une situation révolutionnaire à l'occasion d'une guerre extérieure, ce qui était assez bien vu, puisse donc entraîner la Russie dans la révolution. Alors de fait, il y a déjà eu une première révolution russe, c'est la révolution de 1905, donc à l'occasion de la guerre perdue contre le Japon, qui ébranle l'autocratie, qui suscite l'espoir aussi des socialistes européens, mais sans que cette révolution parvienne à briser justement l'autocratie, ni même à entraîner véritablement une évolution politique, malgré la création, donc l'autorisation d'élections parlementaires, la première Douma, mais qui reste avec un corps électoral tout à fait restreint. Donc c'est vraiment la guerre qui va entraîner la Russie dans la révolution, mais pas tout de suite, hein, puisque la mobilisation en 1914 se fait sans difficulté, lorsque Nicolas II donc, entre en guerre aux côtés de ses alliés, donc français et britanniques notamment. C'est à cette occasion donc, qu'il donne à sa capitale Saint-Pétersbourg le nom beaucoup plus russe de Petrograd. La Russie s'engage dans une guerre d'union sacrée, comme la France, mais une union sacrée qui se révèle bien fragile. Il y a un enchaînement d'événements. Et là, l'historien revient à l'événement, même si, bien sûr, il y a des causalités plus profondes, notre sociale, économique. Il y a des temporalités longues, mais il faut suivre donc notamment toutes ces journées révolutionnaires qui s'enchaînent et qui entraînent donc la Russie dans la révolution. Si on se replace au début de l'année 1917. Deux ans de guerre, un sentiment de profonde lassitude partout dans les deux camps, partout en Europe, et une Russie qui est particulièrement frappée par des pertes, avec déjà près de 2 millions de morts, de très nombreux blessés et prisonniers, avec des hausses des prix, des pénuries, et une succession de défaites. La perte donc d'une partie, la partie occidentale de l'Empire, la partie qui est disons, autour de la Pologne actuelle, et qui a entraîné un afflux de réfugiés tout à fait considérable, et qui a tari aussi un certain nombre de ressources économiques de l'Empire. Et face donc à cette situation plutôt de crise, le pouvoir ne sait pas réagir, puisque... Il a bien sûr renforcé ses modalités d'action. Il a instauré une censure. Nicolas II a renforcé le pouvoir exécutif, mais il n'a pas su répondre à sa noblesse et à sa bourgeoisie libérale qui souhaitaient être associés au pouvoir et contribuer à cet effort de guerre. Donc, contrairement à ce qui va se passer, par exemple, en France. La société n'est pas associée à l'effort de guerre. Il y a toute une ébullition locale, des communautés, des municipalités qu'on appelle les Emsvo, que le pouvoir perçoit comme une menace. Nicolas II, l'empereur Romanov, qui a en 1913 fêté triomphalement le tricentenaire de sa famille. Sur le trône russe, qui se croit adoré du peuple. En réalité, il commet une série d'erreurs. Il prend personnellement le commandement militaire. Il suspend donc l'activité parlementaire. Il ne se rend pas du tout compte de sa perte finalement de popularité avec des rumeurs de complot. Bon, je vous laisse la chronologie. Avec donc des rumeurs de complot allemand et surtout le discrédit qui est lié donc aux origines allemandes de sa femme, la tsarine Alexandra, et à toute l'ébullition, on va dire médiatique, c'est bien le cas, il y a quand même des médias en Russie, qui est lié donc à l'influence supposée qu'exerce sur elle le moine Rasputin, qui est assassiné fin décembre 1916. On voit cette carte à jouer, à droite, que nous avons exposée, qui est une carte postale sous forme de carte à jouer, bien sûr, postérieure à la Révolution, puisqu'il était interdit de représenter de manière satirique le tsar avant la Révolution. Et on voit ce pouvoir bicéphale, le Rasputin d'un côté, le tsar de l'autre. Voilà, donc cette révolution, elle surprend, malgré donc cette situation que nous, nous connaissons, mais qui ne filtre pas beaucoup à cause de la censure, notamment de la presse, y compris, donc, bien sûr, en Europe. Donc, elle va surprendre aussi les Européens et notamment les Français. Cette révolution, elle surprend aussi, d'ailleurs, ceux qui la souhaitent, c'est-à-dire les révolutionnaires, qui sont d'ailleurs bien souvent, pour les plus radicaux d'entre eux, loin du terrain, qui sont exilés par le tsar. Hein. Lénine est en Suisse, Trotsky, qui vivait en France et a été expulsé de France en 1916, est aux États-Unis. Quant à Staline, il est en relégation dans la lointaine Sibérie. Donc aucun n'est vraiment aux premières loges. Les partis d'opposition ne sont pas prêts, en fait, hein, face à cette accélération des événements, avec tout le spectre de ces partis révolutionnaires, hein, qui vont de la droite libérale, ce qu'on appelle les cadets, les constitutionnels démocrates, que ce soit les socialistes révolutionnaires, qui mettent en avant les paysans, ou que ce soit les marxistes du parti social-démocrate. Alors, à la tête donc de ce parti ouvrier social-démocrate de Russie, il y a Lénine, donc Vladimir Ilitch Ulianov, qui a pris ce pseudonyme à partir du fleuve de la Léna, où il était exilé en Sibérie. Et c'est lui qui, malgré tout, réagit le plus vite à l'évolution de la situation et qui se fait connaître donc d'une poignée, certes, mais une poignée quand même qui sera importante de socialistes européens, de pacifistes européens, en analysant la guerre comme révélatrice des contradictions du capitalisme en ayant donc ce mot d'ordre qui s'avérera extrêmement percutant de la transformation donc de la guerre impérialiste, donc portée par les intérêts économiques des bourgeoisies, en guerre civile révolutionnaire. Et donc il identifie la Russie comme ce maillon faible du système capitaliste, alors même qu'elle est très peu industrialisée, il y a très peu d'ouvriers, mais à condition qu'elle soit évidemment entraînée par une avant-garde bien organisée, donc c'est le parti bolchevique. Alors tout ça, donc, ce sont des analyses lues par quelques, je dirais, dizaines, même pas centaines d'hommes et de femmes dans toute l'Europe, et qui semblent bien loin de la réalité, puisque au début de 1917, hein, on compte que le parti ouvrier social-démocrate, donc le parti qui réunit à la fois ce qu'on appelle les bolcheviques et les mencheviques, ce parti social-démocrate, il a à peu près 20 000 militants en Russie, donc pour 70 millions d'habitants. Donc c'est très très peu, et c'est beaucoup moins, par exemple, que les socialistes révolutionnaires. Donc ce n'est pas en février 1917 le parti social-démocrate qui déclenche la révolution. C'est un enchaînement lié donc à des événements à la fois économiques, sociaux et à une dynamique de révolutionnaires urbaines à Saint-Pétersbourg, qui va révéler donc la fragilité du pouvoir du tsar, avec donc un enchaînement qui est bien connu, hein, l'échec de la mise en place d'un système de ravitaillement, le froid extrême de l'hiver 1916-17, la pénurie de matières premières, la fermeture des usines Poutilov, le manque de combustible aussi, et donc une manifestation, donc le 23 février 1917, donc 8 mars dans notre calendrier, qui va coïncider avec la Journée internationale des femmes, proclamée donc par les socialistes européens. C'est plutôt une coïncidence, mais ça tombe bien puisque c'est une manifestation de femmes, notamment de femmes de soldats, ce qu'on appelle les soldats K, qui vont entraîner une manifestation ouvrière plus masculine et les grèves de l'usine Poutilov. Donc il n'y a pas véritablement de déclenchement organisé, mais une alliance des oppositions pour transformer donc ces manifestations en mouvements de masse et bientôt en mouvements de masse armés, puisque les marins et les soldats de la garnison fraternisent avec les ouvriers et pillent l'arsenal de Petrograd. Donc le gouvernement, en fait, et le tsar, qui n'est pas là, hein, qui est coincé dans son wagon dans la banlieue, enfin, entre son état-major et la capitale, sont renversés en quelque sorte très rapidement, sans effusion de sang, même s'il y a quand même quelques milliers de morts. La formation donc d'un gouvernement provisoire issu donc du Parlement, la Douma, mais en même temps l'organisation donc d'un pouvoir qui se veut représentatif des ouvriers et des soldats, le Soviet, le Conseil en russe, qui s'installe en fait au même endroit, c'est ça qui est intéressant, hein, tout à fait géographiquement au même endroit, dans le palais de Tauride, et c'est ce qu'on va appeler le double pouvoir. Une dynamique politique. Nicolas II qui abdique donc le 15 mars pour nous et qui va être emprisonné dans son propre palais. Et tout de suite, donc, alors qu'il était interdit de le représenter, on va le montrer abondamment. Ici, on voit donc c'est pas vraiment une caricature, mais cette image qui le montre justement portant l'uniforme du simple soldat et contraint de pelleter la neige comme tout soldat de sa garnison. Donc le moment révolutionnaire, ce premier moment révolutionnaire, il est très bien documenté parce qu'il y avait tout un système de reportage de guerre qui avait été mis en place, comme par exemple en France ou en Allemagne, notamment de films. Alors là, je ne peux pas vous les montrer, mais on les a montrés dans l'exposition et on peut les voir aussi à la bibliothèque, hein, de films, de photographies aussi. Donc il y en a qui sont extrêmement connus, qui ont été ensuite diffusés un peu par la propagande soviétique. Il y en a qui le sont moins, comme celle-là, hein, c'est la garnison justement de l'arsenal. Il y en a qui sont aussi assez connus, hein, c'est voitures chargées de soldats. Et puis il y a aussi des photographies qui sont prises en province. Donc là, on était à Petrograd. Ici, on a travaillé avec le musée de Tcheliabinsk, donc dans l'Oural. Et là, on voit, c'est en haut le soviet, hein, et en bas les manifestations du 1er mai, les manifestations aussi de février. Donc on voit, c'est assez émouvant, hein, à la fois ce mélange de deux milieux sociaux et ces femmes, ces enfants qui sont aussi pris par les reporters. Alors, donc la révolution triomphe et du coup ouvre ce qu'on a appelé dans notre réflexion sur l'année 17, hein, ce champ des possibles finalement, parce que tout est possible. Que va devenir la Russie ? Un régime, une monarchie parlementaire à la britannique ou même à l'allemande, hein, puisque c'est la famille Romanov. Il est très lié aux familles régnantes de l'Europe. Ou est-ce qu'il va se passer autre chose? Est-ce que ça va devenir une république? Donc il y a une succession politique, une succession de gouvernements, avec d'abord un gouvernement libéral, hein, le prince Lvov, puis ensuite un gouvernement de socialisme modéré. On voit apparaître un personnage qui va dominer l'année 17 en Russie, qui est Alexandre Kerensky. Qui est donc leader des socialistes modérés, qui est ministre de la guerre, mais qui est aussi vice-président du Soviet. Donc il ne faut pas voir, hein, d'un côté le peuple, de l'autre les élites. En fait, il y a vraiment ce double pouvoir qui fonctionne de façon complexe. Et avec toute une série de mesures qui proclament les libertés individuelles, la liberté religieuse, l'abolition des discriminations, le suffrage universel qui est octroyé aux femmes comme aux hommes, l'abolition de la censure, il y a véritablement un moment démocratique qui est tout à fait unique en Russie et qui va finalement rester unique jusqu'aux années 1990, de ce siècle. Il y a multiplication d'assemblées, de floraison de journaux de cartes postales, d'affiches, etc., qui sont tout à fait passionnantes et fascinantes. Donc, le premier projet qui va se déployer, c'est le projet d'établir un régime parlementaire, finalement, à l'occidental. Et donc, le gouvernement provisoire ne veut pas prendre de mesures trop importantes avant d'avoir fait élire une assemblée constituante. Et c'est ça, finalement, qui va causer sa perte, hein, puisqu'il n'agit pas assez selon une population qui demande de plus en plus de réformes. Puisque, d'un autre côté, hein, il y a le double pouvoir des soviets qui s'organise et qui va se radicaliser. Donc, il réunit un premier congrès en juin 1917, tout en, malgré tout, réaffirmant sa confiance au gouvernement provisoire. Donc, ce qui se passe au printemps 1917, c'est l'apparition d'une vie politique tout à fait inédite, des nouvelles figures qui sont donc popularisées, comme ici, par la carte postale, hein, de Kerensky. En même temps, une grande incertitude sur l'avenir du pays, qui reste un belligérant de la Première Guerre mondiale. Donc, ici, hein, on voit comment... Bien sûr, c'est posé. Hein, à l'époque, toutes les photographies, presque toutes, hein, sont posées. Donc, bien sûr, ils sont devant leur... en train de lire avec beaucoup d'attention ces tracts, mais on voit ce placard affiché, on voit cette soif de lire quand on le peut, ou de se faire lire, et puis cette presse satirique de grande qualité qui apparaît qui va donc montrer un certain nombre de figures, soit les hommes politiques nouveaux, soit des figures plus symboliques. Hein. Ici, on a la revue satirique Beach, les deux vierges de la Révolution. Donc, d'un côté, la révolution à la Delacroix, la jeune révolutionnaire armée mais belle et qui est celle que défend le journal, c'est-à-dire la révolution du gouvernement provisoire, plutôt libérale, plutôt modérée. Et en quatrième de couverture, donc c'est à la fin du journal, on voit la mégère bolchevique qui évidemment est beaucoup moins gâtée par le caricaturiste. Alors, donc l'enjeu fondamental, c'est au quotidien, bien sûr, la survie économique, mais l'enjeu fondamental pour le pays, ça reste la guerre ou la paix. Ce que choisit le gouvernement provisoire, c'est de continuer la guerre au prix de fragiliser la révolution. Donc, pourquoi ? Parce qu'il veut tenir ses engagements. Il veut défendre la nation, il veut honorer ses alliances, et ce d'autant plus que un événement important se produit, c'est-à-dire que les États-Unis entrent en guerre en avril 1917, et que désormais donc la Russie se veut clairement dans le camp des démocraties, côté de la Grande-Bretagne et la France, contre les puissances centrales. Donc autocratique et contre l'Empire ottoman. Donc il y a aussi un enjeu politique. Les gouvernements alliés vont tenter de renforcer ce gouvernement provisoire en envoyant notamment des missions militaires, en renforçant des missions qui sont parfois déjà présentes, en envoyant aussi des délégués parlementaires, hein, socialistes, comme Albert Thomas pour la France ou Anderson pour la Grande-Bretagne. Il s'agit donc de renforcer cette alliance, vous voyez une assiette de propagande française, hein, de 1914, notamment par financièrement. Donc la France va essayer de pousser la Russie justement à refinancer sa guerre par cet emprunt de la liberté qu'on voit sur l'affiche à droite. Puis elle va aussi donc fournir des armes contre des soldats, ces fameux soldats russes qui ensuite se mutineront à la Courtine à l'automne 1917. Et puis, donc, on voit sur ce bulletin communiste qui est postérieur, de 1922, ces soldats, dont Pierre Pascal, sur lesquels j'ai aussi pu travailler, hein, ces soldats français qui, pour partie, donc sont en Russie et pour partie vont choisir le camp de la Révolution. Kerensky et son gouvernement vont relancer la guerre, mais en vain, notamment parce qu'ils ont voulu aussi démocratiser l'armée, et qu'une armée complètement démocratique, ça fonctionne pas forcément très bien. En l'occurrence, ça ne fonctionne pas. L'utopie de l'abolition de la discipline, des grades, etc., aboutit finalement à la dissolution assez rapide de l'armée et à des désertions en masse. La dynamique du printemps 1917 hein, qui est extrêmement rapide. Avril 1917, les États-Unis qui rentrent en guerre. Avril 1917, les journées d'avril, des premières fortes manifestations contre la guerre. Et en même temps, Lénine qui quitte la Suisse dans ce fameux wagon plombé, qui en fait n'est pas plombé, hein, mais qui est quand même un wagon qui a un statut d'extraterritorialité, ce qui permet aux Allemands de dire Lénine et sa vingtaine de compagnons et son épouse vont traverser l'Allemagne sans descendre du train nous les autorisons donc à rejoindre la Russie, ce qui arrange évidemment les Allemands. Une photo est prise au passage de Lénine à Stockholm. On le voit ici devant hein, avec son petit chapeau et puis son parapluie. Chapeau qu'il abandonne, dit-on, hein, mais je pense que c'est quand même plus ou moins vrai. Dès son arrivée à Petrograd, il laisse le chapeau et il va adopter tout de suite la casquette beaucoup plus prolétaire. L'arrivée de Lénine va déclencher une campagne de presse dénonçant sa collusion avec le gouvernement allemand, le mythe du Bosch bolchevique en France. Et ici, on voit à gauche hein, Lénine qui apporte donc une paix séparée sous forme de petit chaperon rouge au loup germanique. Et on voit bien que, en fait, le caricaturiste russe ne connaît pas Lénine. Il le dessine, mais sans connaître physiquement, puisqu'il n'est pas absolument pas, ressemblant. Lénine va s'installer à Petrograd avec des mots d'ordre extrêmement radicaux, tout le pouvoir aux soviets et surtout la paix immédiate. Et il profite donc de l'échec de l'offensive qui est désespérée, qui est lancée par Kerensky en juin 1917, la désagrégation de l'armée, de la révolution qui se diffuse dans les campagnes. C'est ce qu'on appelle le partage noir, hein, les soldats qui rentrent et qui s'emparent des terres sans attendre justement cette loi agraire que le gouvernement provisoire ne se résout toujours pas à promulguer. Ces soldats, ces paysans, qui sont donc 90% de la population russe, adhèrent à la révolution, mais à leur manière. Et c'est source de bien des malentendus pour la suite, et notamment au moment de la stalinisation. Dans les villes, donc, le ravitaillement est toujours aussi catastrophique. Et enfin, donc, l'Empire se disloque. C'est l'image qui était mal placée là, là, c'est la Finlande, hein, le lion finlandais, et puis aussi l'Ukraine, qui proclame donc leur indépendance. Ici, ce sont les universaux, donc les premières lois de l'Ukraine indépendance, à la fois en russe et en ukrainien, mais ici, il n'y en a qu'une partie, puisque c'est aussi publié aussi en yiddish, en l'occurrence. Mais c'est vrai aussi dans les régions musulmanes de l'ancien empire, donc l'empire qui éclate. Et l'été, l'automne 1917, qui sont extrêmement bouleversés par des tentatives donc croisées de renverser le gouvernement provisoire. À l'extrême gauche, Lénine fait une première tentative, ce sont les journées de juillet. Alors, On va les voir ici. Voilà. Donc, en haut à droite, hein, une photo qui est devenue complètement iconique de la Révolution russe. Ce sont justement ces journées de juillet. Donc, un photographe qui est dans un hôtel qui prend en photo le gouvernement provisoire qui mitraille son propre peuple, donc de façon très, très symbolique. Donc, tentative de l'extrême gauche et tentative de la droite, le général Kornilov, qui est chef des armées et qui va tenter de prendre le pouvoir à son tour. En août 1917. Donc un double échec dans un premier temps, puisque la solution autoritaire échec aussi, mais le gouvernement provisoire qui va être fragilisé et Lénine donc se persuade que c'est le moment de prendre le pouvoir. Donc il s'était caché en Finlande, caché et déguisé en Finlande. Il rentre. En octobre 1900, le 23 octobre hein, 1917, et il fait voter par le parti bolchevique l'insurrection armée. Et on est donc à la veille de la réunion du deuxième congrès des soviets. Et là, Lénine montre donc bien qu'il ne compte pas sur le pouvoir représentatif, ni l'Assemblée constituante, comme on va le voir, ni même le pouvoir des soviets, puisque les bolcheviks ne sont pas majoritaires au congrès des soviets, mais s'ils peuvent s'allier aux mensheviks et aux socialistes révolutionnaires, ils deviennent majoritaires. Donc ils peuvent renverser Kerensky en réalité. En tout cas, ils peuvent être au pouvoir au congrès des soviets. Mais Lénine ne le veut pas. Il veut tout le pouvoir et donc il décide de prendre le pouvoir par un coup d'État ou par une révolution programmée, disons, qui a lieu les 24 et 25 octobre 1917. Donc, c'est la révolution d'octobre, la prise du palais d'hiver, un moment mythique qui va être beaucoup revisité, bien sûr, notamment par le fameux film d'Eisenstein, hein, son film Octobre, qu'on voit ici donc dans un diorama des années 20, qui était très beau. Et donc, c'est la destitution du gouvernement provisoire, là aussi, très très rapidement et de façon très surprenante pour les observateurs. Donc le lendemain s'ouvre le deuxième congrès des soviets. Trotsky va renvoyer, selon cette fameuse formule qui est tout à fait authentique, les socialistes révolutionnaires et les mensheviks, je cite, aux poubelles de l'histoire, puisqu'ils vont quitter le congrès. Et le Congrès vote donc tout le pouvoir aux soviets, donc aux bolcheviks, et va proclamer, beaucoup plus vite donc, que ne l'a fait le gouvernement provisoire, des décrets sur les questions qui intéressent le peuple russe, c'est-à-dire la paix immédiate et la terre, la nationalisation de la propriété, à la fois des usines, mais surtout donc de la propriété paysanne. Et donc c'est tout de suite le déclenchement d'une guerre civile, notamment à Moscou, où la révolution est beaucoup plus violente qu'à Petrograd, et bientôt donc une guerre civile qui va déchirer le pays pendant plusieurs années, avec rapidement, hein, pour ce qu'on va appeler les blancs ou les contre-révolutionnaires, l'appui donc de la France, de la Grande-Bretagne et du Japon. Et des Allemands donc qui continuent bien sûr à avancer et à se rapprocher de la capitale. Donc pendant ce temps, et c'est ça qui est tout à fait intéressant et qui a été peu connu, et on comprend pourquoi, puisque le gouvernement soviétique n'a pas voulu insister sur ce moment. Donc pendant ces mois extrêmement troublés, donc de l'été, de l'automne 1917, y compris après la révolution d'octobre, se tiennent les élections à l'Assemblée constituante. Donc ici, vous voyez des bulletins de vote avec des chiffres écrits en très gros, puisque la plupart ne savent pas lire. Donc il faut vraiment qu'on leur explique que tu vas voter pour la liste 8, pour la liste 12, etc. Et puis il va mettre le bulletin de vote dans l'urne. Et puis, donc ça c'est aussi l'extrait d'un film hein, qui est très intéressant. On voit aussi la propagande qui se fait en lançant des tracts depuis les voitures. Et on voit donc cette ébullition de la campagne électorale avec donc malgré tout plus de 50 millions de votants. Ce qui est quand même considérable pour qui votent donc pour la première fois, pour la plupart, au suffrage universel, masculin, féminin, de toutes les nationalités. Une campagne donc électorale extrêmement active, avec l'élection donc finalement de 766 députés, dont seulement 170 élus bolcheviques. Donc pour les bolcheviques, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas d'une élection légitime, il s'agit de ce qu'ils appellent le formalisme démocratique, donc un régime parlementaire qui est mis en place par des bourgeois qui manipulent le peuple. Ils ne le reconnaissent pas, cette légitimité. Donc l'Assemblée est convoquée, c'est-à-dire que ça se passe évidemment en parallèle de la révolution d'octobre. Les députés arrivent de toute la Russie. Ils se réunissent donc le 5 janvier 1918 et le jour même, donc, l'Assemblée donc, est fermée et dissoute de force. Et malgré une résistance populaire, un certain nombre de manifestations, cette assemblée n'aura vécu qu'un seul jour, et c'est donc l'installation du régime soviétique qui va, comme je le disais tout à l'heure, conserver le pouvoir au prix d'un accord de paix séparé qui va être très coûteux en termes notamment de territoire pour la jeune Russie. Voilà, donc j'en termine là, hein, avec ces deux images concurrentes, en quelque sorte. Ce dernier numéro d'une des revues satiriques libérales qui était apparue en 1917, qui va être interdite, comme toute la presse bourgeoise, tout de suite. Hein, où on voit le drapeau noir de l'anarchie, qui écrase le drapeau rouge de la liberté. Donc à gauche, cette fin en quelque sorte de ces espoirs libéraux, et à droite, une des premières affiches soviétiques, hein, en octobre 1918, le premier anniversaire de la révolution, et donc cet espoir d'un monde nouveau tel qu'il est construit par le régime prolétarien soviétique. Voilà, donc c'est le début, évidemment, de ce régime d'un type nouveau. C'est le début d'une relation qui est nouée de façon assez inédite, hein, avec les puissances internationales et notamment avec la France. Donc Moscou qui va se proposer comme guide, comme modèle aux prolétaires du monde entier, suscitant des espoirs, suscitant des haines aussi, et donnant lieu à de multiples interprétations dès l'époque et puis pendant tout le siècle qui a suivi, ces interprétations qui continuent évidemment à faire débat. Voilà, merci.
Merci.